Et si on partait sur Europe 1, vous le savez, tous les jours, entre 16h et 18h, je vous emmène pour un grand voyage. Chaque jour, deux destinations. Une en France, une au bout du monde, juste pour rêver. C'est parti.
16h, 18h. Et si on partait ? Philippe Googler.
Tout à l'heure, après le flash de 17h, je vous emmènerai dans un pays absolument fascinant, où l'on roule encore souvent dans de vieilles américaines des années 50, ce qui est incroyable. Un pays qui, depuis la révolution qu'il a vécue en 1959, n'a pas évolué comme les autres. Il est comme dans un temps parallèle. C'est un pays où tout se mêle, l'histoire, le présent, les couleurs, la chaleur humaine, un sens incroyable de la débrouille, dans un pays où la vie n'est pas toujours facile. La musique, bien sûr. C'est un torrent d'émotions unique au monde. Je vous emmènerai à Cuba. Et puis tout de suite, en première heure, une région de France magnifique, la région des volcans, 80 volcans qui sont comme une ribambelle de dômes verdoyants et assoupis, heureusement, des cratères, des cônes, des aiguilles. Ils sont tellement beaux qu'ils ont été classés au patrimoine mondial de l'humanité. On va découvrir ensemble l'Auvergne dans « Et si on partait ?» jusqu'à 17h.
Loin des bruits de la ville, j'irai jusqu'en Auvergne. Pêcher la truite à l'ombre d'un sapin, dans la rosée fraîche du matin.
Je la connaissais pas celle-là. Donc c'est Enrico Macias qui va pêcher la truite à l'ombre d'un sapin en Auvergne.
C'est plausible.
Pourquoi pas ? Franchement, pourquoi pas ? Je vous présente toute la bande de joyeux voyageurs qui est avec moi tous les jours. Il y a bien sûr Nathalie Elal, grande voyageuse, auteure. Bonjour Nathalie.
Bonjour à tous.
Il y a Emmanuel, la petite nouvelle, qui nous parle gastronomie. On va voir un petit peu ce qu'on mange en Auvergne, il doit y avoir le choix.
Oui, il y a plein de bonnes choses.
Plein de bonnes choses.
Bonjour à tous.
Et puis Jean-Bernard Carrier.
Bonjour à tous.
Bonjour du guide Lonely Planet. Alors l'Auvergne, bon, on sait que c'est au milieu.
Alors c'est tout à fait, c'est au milieu de la France, en plein centre de la France. On va dire qu'à l'est, il y a la région Rhône-Alpes et à l'ouest, il y a le Limousin. Voilà, ça permet un petit peu de situer. L'Auvergne, région quand même très montagneuse, mais pas si haut que ça non plus, parce que l'altitude maximale, c'est dans les 1800 mètres à peu près.
Mais donc, c'est mieux, c'est plus doux, ouais, c'est plus rond, c'est plus agréable.
On aime cette rondeur dans notre émission ici.
On n'aime pas les pics, on n'aime pas ce qui coupe.
On n'aime pas ce qui est acéré. Voilà. Donc là, on est dans cette région ronde avec des parcs naturels. C'est une région très sauvage, très nature. Il y a deux parcs naturels régionaux, et vous l'avez dit, la chaîne des Puits qui est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO.
C'est
quand même une reconnaissance incroyable. Ah oui, c'est une reconnaissance incroyable.
C'est magnifique, la chaîne des Puits. Nathalie, vous êtes super douée pour faire un truc que moi, je n'arriverai pas à faire. C'est toujours trouver les célébrités, les grands hommes qui viennent d'une région. Et alors, d'Auvergne, c'est incroyable, mais il y en a pas mal aussi.
Et oui, Philippe, vous allez voir, encore une fois, ils sont nombreux, hein, ces hommes et ces femmes célèbres à porter haut les couleurs de leur région, comme par exemple les écrivains Jules Romain et Robert Sabatier, la journaliste Claire Chazal,
ah oui,
Francis Bouygues, l'entrepreneur du bâtiment et fondateur de TF1, l'humoriste Fernand Reynaud, la comédienne Chantal Lobby, le chanteur Jean-Louis Murat. Mais l'Auvergne est aussi une terre d'hommes de pouvoir, à l'image du marquis de Lafayette, qui est intervenu aux États-Unis, comme chacun sait. Et c'est même aussi une terre de présidents. Par exemple, Georges Pompidou, qui dirige la France de juin 1969 à avril 1974, auquel on doit le centre très avant-gardiste qui porte son nom. Valéry Giscard d'Estaing, lui aussi président de 1974 à 81, qui n'est pas né en Auvergne, mais qui a fait ses études et qui a surtout été le maire de Chamalières. Ouais. Et puis une femme, une icône de la mode, célèbre pour ses initiales 2C entrelacées. Je vous en reparle tout à l'heure, je vous laisse le suspense intact.
Deux C entrelacés.
Oui, deux C, une griffe très, très petite débutante dans la mode.
Ah oui,
on ne la connaît pas du tout.
J'ai trouvé.
Oui, très bien.
On en reparle tout à l'heure. Emmanuel Jarry, vous êtes journaliste spécialisé dans les voyages et la gastronomie. Vous avez créé l'émission « C'est meilleur quand c'est bon » sur Internet. Une gourmande comme vous, votre premier réflexe quand on dit Auvergne, qu'est-ce que vous dites ?
Eh ben, je vous dis tout simplement que je crois que c'est ma région préférée en France.
Hein. Ah bon ?
Oui, exactement. C'est là où je préfère. Enfin, je l'ai découverte il y a 3-4 ans.
Vous vous rendez compte que vous mettez à dos toutes les autres ?
Oui, bah oui, mais tant pis. Écoutez,
dans votre spécialité, je ne sais pas si c'est très sain.
Je dis ce que je pense. Mais pas seulement pour la gastronomie. Moi, j'adore. J'ai randonné sur le massif du Sancy en raquette. raquette l'hiver. J'ai été à la cueillette des plantes dans le Cantal. J'aime cette région, je m'y sens bien. Je trouve que les Auvergnats sont sympas et évidemment, on mange très, 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 très bien.
Bon, eh ben, écoutez, on va développer tout ça tout à l'heure. À 17h, je vous emmènerai à Cuba, la perle des Caraïbes. Dans un instant, donc, l'Auvergne et sa chaîne des puits. Et nous serons en ligne avec Renaud Lavillenie. Que vous connaissez, c'est le spécialiste du saut à la perche, le champion olympique 2012 à Londres, marié à une Auvergnate et qui vit depuis 10 ans à Clermont-Ferrand. C'est un Clermontois de cœur. On le retrouve dans quelques instants.
Philippe Googler sur Europe 1.
2 heures de voyage tous les après-midi, juste pour le plaisir de rêver, de s'évader sans contrainte. Après 17h, nous partirons donc dans ce pays différent, où l'on roule encore souvent dans de vieilles américaines des années 50, rafistolées et re-rafistolées, tellement rafistolées que des fois, il n'y a même plus une pièce d'origine. La capitale, La Havane, qui est une merveille et qui vous prend aux tripes. Donc, grand départ pour Cuba tout à l'heure, après le flash de 17h. Mais là, tout de suite, nous sommes en Auvergne, où l'ORN, vous savez que l'Auvergne réunit plus du tiers des sources françaises. C'est pour ça qu'on voit souvent des pubs à la télé avec des eaux qui puisent leur fraîcheur dans le cœur des volcans. Et la marquise de Sévigné, d'ailleurs, venait souvent se soigner. Elle avait des rhumatismes. Elle venait se soigner à Vichy. Elle venait y prendre les eaux, on disait à l'époque. Je vais y prendre les eaux. Cet après-midi, notre guide exceptionnel est un Auvergnat d'adoption. Il s'est installé à côté de Clermont-Ferrand il y a plus de 10 ans. Depuis, il ne bouge plus. Il est là-bas, c'est sa terre. Et c'est pour lui la terre idéale. Il va nous dire pourquoi. Pour pratiquer le sport à un très haut niveau, nous sommes en ligne avec le célèbre perchiste Renaud Lavillenie depuis l'Auvergne. Bonjour Renaud Lavillenie.
Bonjour.
Vous êtes originaire de Charente, du côté de Cognac. Ce n'est pas un bon départ pour un futur Auvergnat. Mais vous êtes en Auvergne depuis 12 ans. Vous êtes exactement, vous me dites si je le prononce bien, à Pérignat-lès-Sarliève, c'est ça?
Oui, c'est ça, oui.
Qu'est-ce qu'il y a comme paysage là-bas? Qu'est-ce qui vous plaît tant?
La nature. Ouais. Ce qui me plaît beaucoup, c'est en fait, c'est la proximité entre le milieu urbain et le milieu naturel qui fait que en un coup de voiture, un coup de vélo, on est tout de suite dépaysé, on est tout de suite dans la nature et moi, c'est ce qui me permet de me ressourcer très vite. Et voilà, là où j'habite, justement, je suis au pied du plateau de Gergovie et ce qui fait que tout de suite, voilà, je peux recharger les batteries très facilement et ça, c'est sans avoir les problèmes de passer certaines longues minutes, voire longues heures avant de pouvoir sortir.
Ça ressemble à quoi le plateau de Gergovie?
Ça ressemble, ça dépend en fait comment on l'attaque. Si on y va en voiture, si on y va en vélo, si on y va à pied, parce que du coup la complexité, la difficulté est pas la même. J'ai tendance à le faire pas mal en vélo, donc il est quand même assez, il faut quand même s'accrocher pour y monter. Ouais. Et après en fait c'est assez incroyable parce qu'on a un point de vue qui est quand les jours sont dégagés qui est vraiment magnifique. D'un côté on a toute la chaîne des puits qui descend jusqu'au mont du Sancy et c'est vraiment magnifique.
Donc vous avez vu sur combien de volcans là à peu près?
Voilà, je me suis pas amusé à les compter, mais honnêtement il y en a énormément. Ouais. Ouais. Je dirais pas qu'on les voit tous, mais je pense que je pense qu'on doit en voir peut-être un bon tiers facilement, ouais. Au moins. Ouais. Et puis après, en plus, on a de l'autre côté, on a la plaine de la Limagne, et puis après, on a les monts du Forez en direction de Lyon. Et enfin, non, honnêtement, on a un vrai beau panorama et ça fait du bien, quoi.
Ça a l'air pas mal. Et pourquoi vous êtes installé en Auvergne?
Alors en fait, il y a eu deux raisons. La première, c'était que à l'époque, j'étais avec ma copine qui est maintenant du coup ma femme, qui elle est originaire d'ici. Et donc du coup, c'était une des motivations. Et la deuxième, c'était surtout qu'il y avait des installations sportives qui étaient vraiment vraiment très compétitives, vraiment de très haut niveau. Et le tout regroupé avec la fac, le stadium et de quoi loger sur un périmètre de 500 mètres. Voilà, c'est ce qui m'a donné envie de venir ici. Et puis surtout, c'est que direct, j'ai été adopté comme un Auvergnat en l'espace de quelques mois. Et j'ai jamais pensé à quitter cette région parce que je me suis tout de suite plu, quoi.
Ah oui, vous êtes vite adopté. Vous êtes mis à la Ligo rapidement?
Plutôt à la Truffade, mais ouais, du coup je m'y suis mis rapidement. Mais ça, on m'a pas trop forcé pour y aller. Hein.
Oui, parce que alors là, Ligo, c'est un gros débat, Emmanuel. C'est d'Auvergne ou pas ?
Ah bah, écoutez, moi, c'est la vraie question que je pose, parce que quand j'ai parlé une fois de la Ligo en Auvergne, on m'a dit voilà, surtout pas, c'est les Aveyronnais qui mangent de la Ligo, ou à la limite sur les plateaux de l'Aubrac, il y a une partie dans le Cantal. Alors, est-ce que vous trouvez de la Ligo par chez vous ?
Alors oui, on en trouve, mais je crois que vous avez raison. Il me semble que c'est de l'Aveyron à la base, et chacun, on va dire, trouve un peu ses trucs. Mais en tout cas, moi, je suis plutôt plus truffade, et je sais que la truffade, je crois que c'est bien auvergnat.
Nathalie.
Mais je suis pas certaine que vous fassiez un petit entraînement après ça, non?
Généralement, on le fait plutôt, on prend plutôt le plateau en hiver après l'entraînement justement, et en essayant d'avoir un ou deux jours de repos derrière pour éliminer.
Ah bon. Écoutez, alors j'ai appris quelque chose sur la Ligo, parce que moi je connais un resto réputé, je donnerai pas son nom parce que là visiblement il y a peut-être un scandale derrière, un restaurant qui représente l'Auvergne et qui sert de la Ligo.
Oui, tout à fait. Et l'ancêtre de la truffade, sinon c'est la patronne qu'on mettait à l'origine du pain rassis avec du fromage et non pas des pommes de terre, je crois.
D'accord. Bon, on apprend plein de trucs. On va continuer à débroussailler toutes ces questions essentielles dans un instant sur Europe 1 dans Et si on partait ?
Sans partir pour mieux revenir, hein, puisque jusqu'à 18h, on voyage encore ensemble avec Philippe Googler et toute son équipe de Globetrotters. Du voyage aussi en musique, puisque tout de suite, nous allons du côté de New York, la Grande Paume, avec Claude Nougaro sur Europe 1. Dans le creux de la vague au milieu des années 80, c'est à New York que Claude Nougaro s'exilera, puis retrouvera aussi l'inspiration avec en 87 l'un de ses plus grands succès, Nouga York sur Europe 1. Bel été à tous.
16h-18h. Et si on partait ? Philippe Googler sur Europe 1.
2 heures de voyage tous les après-midi sur Europe 1. Après 17h, je vous emmènerai à Cuba, un pays à l'histoire fascinante, à l'image un peu de ces villes dont l'héritage colonial est préservé. Vous avez des palais magnifiques, mais qui sont souvent occupés par des gens du peuple suite à la Révolution. Et c'est une situation, une ambiance, une atmosphère absolument unique. Tout à l'heure, donc, après le flash de 17h. Et puis, pour l'instant, nous sommes en Auvergne, au milieu de ces volcans aux formes si étonnantes. Le plus grand volcan d'Europe, vous savez, les amis, lequel c'est ?
Je dirais que c'est le Puy de Sancy.
Non.
Le plomb du Cantal.
Le mont Cantal, un seul et même volcan sur plus de 70 km de diamètre. C'était un monstre et quand il était actif, il aurait atteint l'altitude de 4000 mètres. Ça devait, ça devait être une autre ambiance.
Wow, wow, wow.
Voilà, et il couvre pratiquement tout le département du Cantal aujourd'hui. Nous sommes toujours en compagnie du champion olympique de saut à la perche, Renaud Lavillény, auvergnat d'adoption. Quelles sont vos balades préférées là-bas en Auvergne ?
Je fais beaucoup de vélo. Encore aujourd'hui, là, j'étais encore sur les routes et j'ai la chance de pouvoir sillonner un petit peu, soit du côté peu vallonné, soit aller autour du Puy-de-Dôme. J'aime bien me balader autour du Puy-de-Dôme. C'est soit le plateau de Gergovie, soit le Puy-de-Dôme. C'est on va dire deux terrains de jeu que j'apprécie beaucoup.
Pourquoi le Puy-de-Dôme ? Ça correspond à des émotions particulières chez vous ? Il y a quelque chose ?
Il y a des endroits. Déjà, c'est le symbole, le symbole de Clermont-Ferrand, le symbole de l'Auvergne. En plus, pour moi, ce côté de prendre un peu d'altitude, c'est quelque chose qui est assez agréable. Et puis, en fait, juste à côté aussi, il y a la plaine de Lachan. C'est un endroit qui est assez intéressant où j'ai eu l'occasion de, je dirais, d'avoir des émotions mixtes. C'est-à-dire que j'ai sauté au saut à la perche lorsqu'on a fait un documentaire avec Cédric Clapiche avant Rio. On avait installé un sautoir dans un champ à peine un kilomètre à vol d'oiseau du Puy-de-Dôme. Et on avait des vues qui étaient juste magiques. D'un côté, on avait le Puy-de-Dôme. De l'autre côté, on surplombait tout Clermont-Ferrand. C'était au coucher de soleil. Honnêtement, c'est quelque chose qui est vraiment resté gravé. Et puis, à côté de ça, lorsque j'ai demandé ma femme en mariage, c'est le premier endroit où on a été pour faire des photos très, très fortes. Et donc voilà, c'est vraiment un endroit que je trouve magnifique et qui permet vraiment de couper complètement avec la civilisation, de changer d'air et puis surtout de faire des très très beaux clichés.
Ah ouais, chouette ça. Nathalie ?
C'est là où vous avez sauté le pas, quoi, dans tous les sens du terme, en fait.
On peut dire ça. J'ai sauté
sous
différents aspects à cet endroit-là. Ouais.
Voilà, il y a eu une petite censure.
Une
je ne sais pas ce que vous avez
une
sauté.
Émotion.
On ne saura pas. Est-ce qu'il y a une identité auvergnate forte ? Parce qu'on parle toujours des Auvergnats comme des gens qui ont un caractère bien affirmé. Est-ce que ça correspond à quelque chose ?
Ça correspond à quelque chose. Alors après, je pense que j'ai peut-être pas assez de recul ou pour vraiment me
quand même, compte, vous devez commencer à les connaître.
Alors, je commence à bien les connaître, mais l'avantage en fait de les connaître via le sport fait que les Auvergnats m'ont tout de suite très très vite adopté et m'ont tout de suite montré leur bon côté. Donc c'est cool parce que honnêtement voilà on sait que l'Auvergnat c'est pas forcément le je dirais sans être péjoratif mais c'est pas le plus accueillant tout de suite. Il faut faire un petit peu ses preuves, mais par contre après une fois qu'on y est, on est vraiment tout de suite bien accueilli, bien servi, et c'est quelque chose qui est assez agréable et à la fois on sent ce côté un petit peu protecteur de son territoire et aussi fierté de son patrimoine quoi.
Ouais, c'est vrai. Et c'est un petit peu comme beaucoup de montagnards en vrai, c'est cette mentalité montagnarde.
C'est un petit peu ça. Après voilà, c'est pas le on a on, je pense qu'on n'a pas le côté montagnard rustique comme on peut l'avoir dans les grandes montagnes. Donc si on est, je pense sur le sur l'entre-deux un petit peu, et c'est ce qui va plutôt bien, quoi. Ouais.
Alors quand on parle de Clermont, on est obligé de parler de rugby et de l'ASM. Vous êtes un supporter de l'ASM Clermont Auvergne?
Ouais, un très très grand supporter et un grand ami de l'équipe et des joueurs. Donc c'est vrai que si on parle de Clermont, on est obligé de faire un tour par l'ASM.
Bah ouais. Il paraît même que vous avez sauté par-dessus la barre transversale des poteaux de rugby, c'est ça?
Effectivement, ouais, vous êtes bien informé.
Bah oui.
C'était à l'occasion d'un match, c'était en 2010, à l'occasion d'un match de la Coupe d'Europe. Voilà, c'était ce côté un petit peu symbolique, sauter entre les perches pour un perchiste, c'est quelque chose qui paraît entre guillemets normal, mais là je l'avais fait sans artifice, sans tapis de réception. La barre, c'est une barre transversale qui est en alu, qui bouge pas, qui a 3 mètres de haut.
C'est dangereux.
Ouais, il y avait un petit côté, ouais. Il y avait un petit côté, mais honnêtement, ouais, c'était super. Et puis, c'était mes tout débuts sur Clermont, donc ça m'a permis d'être encore plus adopté facilement. Les gens étaient, on avait fait ça à la mi-temps. Je pense qu'il y avait la moitié du stade qui était resté pour voir ça. Et ouais, ça en reste un super souvenir. Ouais.
Merci beaucoup Renaud Lavillenie de nous avoir accordé un petit peu de temps pour nous parler de votre Auvergne que vous aimez. Vos prochaines compétitions, c'est le 27 août à Florence en Italie, c'est ça?
Alors si tout se passe bien et que le Covid nous laisse un petit peu tranquille, c'est ça. Et voilà, je vais avoir 4-5 compétitions d'ici mi-février, mi-septembre, pardon. Ouais. Et puis surtout après, on a envie de tourner la page pour espérer préparer 2021 dans des bonnes conditions. Et puis avec l'objectif des Jeux Olympiques à Tokyo, si tout se passe bien.
Si tout se passe bien, oui. Merci beaucoup, à une prochaine. Et puis
avec plaisir.
Bon vent. Au revoir.
Merci beaucoup. Bonne fin de journée.
Bonne journée. On se retrouve dans un tout petit instant avec les histoires savoureuses, croustillantes et drôles de Nathalie Hellal. Les histoires qui se nichent dans l'histoire de l'Auvergne. À tout de suite sur Europe 1. Et si on partait dans les endroits où on aimerait tous partir en vacances là tout de suite maintenant? On partira à Cuba dans une petite demi-heure. Et puis là, maintenant, nous sommes en Auvergne, une très très belle région française que j'aime beaucoup. Moi, j'adore la chaîne des Puys. Dès que vous contemplez les volcans, vous avez l'imaginaire qui décolle. Et comme c'est un peu sauvage, Nathalie, on imagine mal qu'une star mondiale de la mode puisse venir de là, une star qu'a révolutionné la mode.
Oui, Philippe, enfin révolutionner, le mot est faible. Parce que vous l'ignorez peut-être, mais la célèbre Coco Chanel a passé 6 années en Auvergne qui ont changé son destin.
Ah ouais.
En 1900, elle a 17 ans. C'est une orpheline. Hein. Elle a été élevée dans un couvent, donc une éducation très stricte. Et puis elle va rejoindre une institution religieuse à Moulins, dans l'Allier. Et elle y retrouve sa tante, Adrienne, qui a un an de plus qu'elle. Les deux femmes sont très proches, très complices. Elles sont placées ensuite dans une boutique de dentelle et chargées des commandes et puis des retouches. Et elles sont appréciées et très douées, surtout Gabrielle. Donc, elles se mettent à leur compte et elles commencent à sortir à Moulins, mais surtout à Vichy. Elles sont attirées par le luxe et l'élégance. Il faut vous dire qu'à l'époque, Moulins, c'est une ville de garnison. Et qui dit garnison, dit homme et surtout militaire. Et donc, Chanel, bien, déjà, elle est habile et pas que de ses mains. Elle a le tempérament volcanique de cette Auvergne âpre qui ne se donne pas si facilement. Elle a surtout un aplomb incroyable. En fait, elle cherche le ticket. Hein. Donc, elle va pousser la chansonnette sur la scène d'un café-concert. On appelle ça à l'époque un beuglant, à Moulins toujours, avec une seule chanson, pratiquement une des seules qu'elle connaisse, qui va être un peu le tube de l'époque. Ça s'appelle « Qui a vu Coco dans les jardins du Trocadéro ?» En gros, c'est une histoire de chien perdu.
Hein. Ça, c'est Coco Chanel qui chante.
Ah, elle a commencé dans un beuglant.
C'est dingue.
Ouais. Alors évidemment, ses amis, ou plutôt ses amants, hein, l'acclament en l'appelant Coco. Et puis à cette occasion, elle va pêcher le gros lot, c'est-à-dire un homme riche, un militaire, un passionné de chevaux, qui l'emmène avec lui à Compiègne dans son château. Coco est lancé et ne s'arrêtera plus.
Ah, c'est incroyable cette histoire. Et là, ce qu'on entend,
c'est la musique du film avec Audrey Tautou, le film Chanel.
Ouais. Ah, donc, je ne pensais pas que les débuts de Coco Chanel, c'était comme ça. Là.
Non, on n'imagine pas, parce que c'était une femme très stricte quand on la voit avec ses tailleurs, ne rigolant pas du tout. Elle n'était pas comme elle, la vieille.
Bon. Alors, ça, c'était pour Coco Chanel. Oui. Côté volcan. Moi, je suis très volcan. J'adore.
Vous êtes volcanique.
Je suis. Je ne sais pas si je suis volcanique, mais j'adore.
Vous avez le fond auvergnat, en fait.
Oui, j'ai un vieux fond auvergnat qui traîne.
C'est ça. Au fond de vous.
Un être s'éteint, un volcan s'éteint. Ouais, non, c'était le contraire. Un volcan s'éteint, un être s'éveille.
Absolument. Tout,
c'est le pays de l'eau.
Le dire, c'est bien, mais le faire, c'est mieux. L'alcool, non, mais l'eau ferrugineuse, oui.
Oui, vous aurez reconnu Bourvil, évidemment. Enfin, l'eau, c'est bien, mais pas à tous les repas. Hein. Mais ça
comment
dit
ça, l'eau, pas, bah, c'est pas bien
pas
à
tous
les repas.
Repas. Non, il faut un peu varier les plaisirs, vous voyez ce que je veux dire. Non, mais en fait, l'eau, ça nettoie, ça purifie. Et l'Auvergne, il ne faut pas l'oublier, c'est la région du thermalisme. Alors, le thermalisme, les mauvaises langues disaient, il n'y a encore pas si longtemps, que les cures faisaient plus de cocus que de guéris. Des femmes, des hommes, des baignoires et puis des douches à deux ou quatre mains. Enfin, vous me suivez, hein, évidemment. Ouais. Il y a toujours en Auvergne plusieurs villes très importantes. Hein, le Mont d'Or, la Bourboule, Montrond-les-Bains, Châtel-Guyon et Vaux-les-Bains. Alors ça, c'est plutôt dans la Creuse. Bourbon-l'Archambault et j'en passe. Mais moi, ma préférée, c'est Vichy. Alors vous connaissez tous la fameuse pastille qui a été inventée pour la digestion en 1826. Une pastille avec laquelle on fait d'ailleurs des glaces délicieuses chez un certain Jacques Décoré à Vichy. Vichy, c'est la reine des villes d'eau.
Ouais. Qui a quand même un passé un peu sombre.
Oui, alors effectivement. Moi, je vous parle de Vichy avant Pétain, avant Laval, avant les années noires. Parce qu'il y a une vraie injustice pour cette ville et ses habitants. Il y a eu vraiment ce qu'on appelle la conjonction des imprévisibles, le mauvais alignement de planètes. Mais c'est justement parce qu'elle avait une capacité hôtelière incroyable et un réseau téléphonique refait à neuf, donc idéal pour les transmissions, qu'elle a été choisie par ce régime très sombre. Je vous explique, en fait, the place to be, Vichy, c'est ça vraiment. Ça a été pendant de nombreuses années la ville la plus chic, les pages people de Paris Match avant l'heure, le monde entier venait se retrouver à Vichy. Ah.
Et alors, qu'est-ce qu'on soigne exactement à Vichy ?
Alors, les eaux de Vichy, elles sont bicarbonatées, c'est-à-dire qu'elles sont en fait très bonnes pour le foie et la digestion. On sait que Napoléon III est venu y faire plusieurs cures et c'est lui véritablement qui a donné son cachet à la ville. Il l'a fait transformer avec un parc thermal, il a tracé des boulevards, il a fait construire un casino, de magnifiques chalets au bord de l'Allier. Et puis, à la belle époque, avant la Première Guerre mondiale, il y a une construction incroyable d'hôtels particuliers qui se transforme ensuite en palais. Là, c'est l'âge d'or de Vichy. Il y a des spectacles, des opéras, des ballets, des pièces de théâtre. Le sport aussi qui est très important là-bas. Du golf, du tennis, du tir au pigeon. Alors il faut vous dire qu'on y vient pour se soigner, surtout d'ailleurs les gens des colonies, parce qu'ils ont le foie mais ravagé par les maladies tropicales et l'alcool, parce qu'aux colonies ça picolait sévère. Mais encore plus, ils viennent pour s'amuser. C'est une façon pour la bourgeoisie de se montrer. On affiche son statut social à Vichy, parce qu'il n'y a pas encore Saint-Tropez à l'époque, et c'est quand même plus chic que la Normandie, et plus près de Paris notamment que Cannes. C'est une ville de plaisir, une ville de villégiature, qui aura un engouement extraordinaire aussi dans les années folles. Dites-vous bien qu'il y a eu 2 millions de visiteurs par an à la veille de la Seconde Guerre mondiale.
Emmanuel ?
Oui, d'ailleurs, c'est de cette époque que datent les carottes Vichy, une recette française. Alors, ce n'est pas la plus sexy, mais on cuisait les carottes dans l'eau de Vichy pour soigner les problèmes de digestion.
C'était curatif, les...
Oui, tout à fait.
Ah, d'accord. On y venait comment à l'époque ?
Eh bien, on y venait en train ou en voiture. Et justement, Philippe, vous qui aimez les trains, j'ai pensé à vous. Il y avait un train qui s'appelait le Thermal Express. C'était un train saisonnier de première classe qui partait de la gare de Lyon et qui faisait le Paris-Vichy en 4h30, juste avant la Deuxième Guerre mondiale. C'est un train que la SNCF a malheureusement arrêté en 1981.
Merci beaucoup, Nathalie. On découvre des tas de choses, c'est super, j'adore. On continue à explorer l'Auvergne dans un instant avec les bons tuyaux de Jean-Bernard Carrier du guide Lonely Planet. Et puis, je suis en train de me mélanger les pinceaux en direct, puisque ce n'est pas du tout Jean-Bernard Carrier juste après. J'étais fasciné par vos histoires de train.
Merci, Philippe.
Si vous me parlez de train, moi j'oublie tout. Voilà, c'est comme ça.
On mange d'abord, et on se balade.
On mange d'abord avec Emmanuel Jarry dans quelques instants.
On fait les choses dans l'ordre.
Voilà. Tout à l'heure, après le flash de 17h, nous partirons pour Cuba et pour La Havane. C'est une ville merveilleuse. C'est ces villes qui vous prennent au trip dès que vous y arrivez. Vous vous dites, c'est pas possible, il faut que je reste plus longtemps que prévu. Même si vous aviez déjà prévu de rester un mois, vous aurez envie de rester deux mois. C'est une ville fascinante, à la fois délabrée et éblouissante, pleine d'histoire et extrêmement vivante. On en parlera donc tout à l'heure en deuxième heure.
Elle est à toi, cette chanson, toi l'Auvergnat qui sans façon m'a donné quatre bouts de bois quand dans ma vie il faisait froid.
Et là pour l'instant nous sommes en Auvergne avec Emmanuel Jarry qui va nous parler des bons petits plats auvergnats. Alors c'est vaste l'Auvergne, on mange bien partout, il faut choisir son camp en fait, à l'intérieur même de l'Auvergne.
Bah exactement, c'est vrai qu'entre le nord, le sud, alors tout est bon en Auvergne, mais moi j'avoue que j'ai une affection particulière pour le Cantal, vous l'avez rappelé qu'il y a un volcan, les trois quarts du département c'est un volcan, donc on tourne tout autour du volcan, pas au-dessus du volcan mais autour du volcan, à la recherche de bons produits et en particulier les fromages qui étaient pour certains fabriqués l'été dans les bureaux. Alors vous savez, c'est ces petites maisons de pierre qu'on trouve encore beaucoup dans le Cantal, qui sont très protégées. On peut pas, non seulement on peut pas les en faire ce qu'on veut d'un point de vue architectural, mais on ne peut les fréquenter que l'été.
Ah bon ?
Oui, c'est-à-dire
qu'on peut pas les approcher l'hiver.
Bah c'est-à-dire que même si vous êtes propriétaire d'un bureau, normalement vous n'avez pas le droit d'y aller l'hiver.
Ah non,
parce qu'en fait on respecte la tradition, donc on y allait uniquement l'été pour fabriquer du fromage. Ouais. Je sais pas si c'est un hasard, mais le Cantal est le premier département de France pour le nombre d'AOP fromagères.
Ah oui.
Je le dis parce qu'ils en sont très fiers, ils le répètent souvent. Donc il y a le Cantal, le Saint-Nectaire, Bleu d'Auvergne, Fourme d'Ambert et le Salers. Alors c'est de ce fromage dont je voudrais vous parler en particulier parce qu'il ne reste qu'un bureau, un seul, le Bureau d'Algour, qui fabrique encore le Salers Tradition. Donc il y a 7 fabricants de Salers et un dernier qui le fait encore au bureau.
Ouais. Le Buron, c'était l'endroit, il était dans les hauteurs,
voilà.
Parce que c'était près des vaches,
voilà,
tout simplement.
Parce qu'en fait, on allait en estive, c'est là que l'herbe était bonne l'été, donc il y avait ces petites maisons, et ils vivaient là entre la fin mai et la mi-octobre. Et donc, à l'époque, les vaches venaient, il y avait des treilleuses. Bon, là, le Buron dont je vous parle, il y a encore la treilleuse
mobile.
Merci. Et en fait, ce fromage, il est élaboré avec du lait de vache de la race Salers uniquement, mais cette vache ne donne son lait qu'en présence de son veau. Donc, pour la traite, on met le veau sous la mer, il tète, il amorce la montée de lait comme ça, et ensuite on le retire, le petit veau, et on accroche, après on met la
c'est
treilleuse.
C'est horrible.
Mais non, c'est pas horrible. Après on met la treilleuse sur l'épi. Mais oui, c'est ce
vous arrachez un enfant au sein de sa mère.
Alors c'est vrai qu'on est obligé de l'accrocher par le cou à la patte avant de la mer, donc il tire, et il gémit pas trop.
Ah, il suffisait d'être accroche.
Mais non, mais en fait, ce qui est très important, c'est que dans la plupart des élevages, quand un veau naît, c'est terminé à peine.
Ouais. Il est séparé de sa mère.
Eh ben, il est séparé de sa mère. Alors que là, le veau va rester au moins pendant 3-4 mois avec sa mère. Le premier mois, il tète autant qu'il veut, il grossit bien. Et ensuite, après, il faut bien faire du fromage, il faut bien vivre.
Ah oui.
Donc voilà. Et c'est 2 fabrications par jour dans une gerle en bois. Alors vraiment, là, on est au cœur de la tradition du Cantal. Et j'ai rencontré des fromagers qui m'avaient dit que pendant 50 ans, ils n'ont pas pris une journée de vacances. Parce que de toute manière, il faut faire
la traite,
et fabriquer le fromage, matin et soir. Donc c'est quand même un dur métier, mais un beau métier.
Et dans ces bureaux, aujourd'hui, c'est équipé moderne, il y a l'électricité
Alors ça dépend en desquels, mais le bureau dont je vous parle, il n'y a pas d'électricité. Donc là, ils vivent pendant 4 mois, ils fabriquent leur fromage.
À la main.
Oui, voilà, c'est ça.
Incroyable.
C'est très très beau à voir, c'est des gestes magnifiques, il y a un vrai savoir-faire.
Qu'est-ce qu'on trouve d'autre dans ces montagnes?
Alors c'est le paradis de la cueillette. Moi j'aime beaucoup la cueillette. Alors ça commence au printemps, ça se termine à l'automne, et la cueillette, c'est les feuilles, c'est les fleurs, les fruits, mais aussi les racines, et en particulier les racines de gentiane. Donc là, la cueillette vient juste de se terminer. C'est une cueillette un petit peu particulière, très technique, parce qu'en fait, il faut arracher la racine avec un instrument qu'on appelle une fourche du diable. Ça pèse très très lourd, une quinzaine de kilos, et en fait, il y a un marchepied, vous voyez, pour faciliter l'effet levier, parce qu'on ne cueille des racines qu'à partir de l'âge de 30 ans.
Ah oui, donc c'est très très incrusté dans
la
terre.
Très incrusté, parce qu'il en faut beaucoup, il faut des grosses racines, donc elles sont très incrustées dans la terre. Certaines maisons disent ne prendre des racines que de 45 ans, parce qu'il faut aussi préserver la ressource. Donc oui, c'est un travail compliqué. L'alcool de gentiane, il est très amer, on dit qu'il fait digérer, mais moi j'aime bien le boire à l'apéritif. Si c'est trop amer, on met un peu de cassis, on fait Aves cassis, et parce que je préfère digérer avant de commencer à manger, parce qu'il vaut mieux quand on connaît...
Vous digérez avant de manger?
Oui, je préfère. préfère quand
vous avez une constitution très particulière.
Je préfère quand on connaît la cuisine du Cantal.
Nathalie ?
Oui, vous avez parlé de fleurs. Emmanuel, j'en profite pour vous dire qu'il y a une ressource absolument étonnante aussi dans cette région. C'est le narcisse, qui est une fleur au parfum envoûtant, oui, très recherchée par les parfumeurs. Et c'est vraiment que dans cette région qu'on la trouve.
Exactement.
Ouais, qui est très belle en plus.
C'est pour ça que les balades dans le Cantal et dans toute l'Auvergne sont agréables, parce qu'il y a toute l'odeur des fleurs en été. Ça, c'est un vrai plaisir. Il n'y a pas que les paysages, il y a l'odorat qui est important.
C'est très capiteux.
Et alors, côté plat roboratif, parce qu'on est servi dans cette région, c'est lequel votre préféré ?
Alors, on en a parlé un petit peu tout à l'heure avec Renaud. La Villénie, c'est la truffade. Ah. Donc, uniquement des pommes de terre et du fromage. Hein. Pas de lardons et d'oignons pour les puristes. Ça doit faire des grands fils. Moi, j'aime bien avec une salade verte et du jambon d'Auvergne. C'est simple, c'est délicieux. Alors, on dit truffade parce qu'autrefois, les truffes, c'était les pommes de terre. Hein.
Comment ça ?
Oui, les truffes, c'était... on appelait la pomme de terre la truffe. Hein.
Ah. Et parce... on ne traitait pas les truffes comme des patates.
Non, non, c'est... hop. Encore que.
Mais on ça, la truffe. Cochon.
Oui, oui, tout à fait. Ça n'a pas toujours été un produit très prisé. Hein. C'est comme le caviar dont on parlait hier. Donc voilà. Et après, évidemment, il y a de la viande, beaucoup de viande, surtout dans les burons, hein, quand les burons sont transformés en restaurants. Donc c'est le paradis du bœuf, Salers, Aubrac, le Charolais du Bourbonnais, plus au nord dans l'Allier. Ouais. Et alors surtout dans le Cantal, on trouve encore énormément de bouchers bâtons. Il y a plein de petits bouchers de village. On appelle ça des bouchers bâtons.
Des bouchers bâtons, qu'est-ce que c'est ?
Bah, parce qu'en fait, c'est des bouchers qui achètent encore leurs bêtes sur pied. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment à savoir, ils se rendent dans les élevages, ils choisissent les animaux avec leurs bâtons en désignant la bête comme ça. Et ça, c'est vraiment aussi quelque chose qui tend à disparaître. Ouais. Donc ils ont à la fois le savoir pour découper la viande, mais aussi pour choisir l'animal sur pied, ce qui n'est pas facile.
Ce sont des maquignons en fait.
Oui, tout à fait. Voilà, ils sont bouchers maquignons, exactement.
Très bien. Oh, on apprend plein de trucs. J'adore. Jean-Bernard, vous voulez bien vous y mettre cette fois-ci ?
Bien sûr.
On va vous retrouver dans un petit instant.
Je suis prêt, Philippe.
Pour vos bons tuyaux, vos bonnes adresses, pour savoir profiter à plein de l'Auvergne.
Et si on partait ? Philippe Googler sur Europe 1.
Pour l'instant, nous sommes loin de Tarbes. Nous sommes en Auvergne. Très très belle région dont toute une partie a été classée au patrimoine mondial de l'humanité, la chaîne des volcans. C'est très beau. Jean-Bernard, comment on fait pour bien profiter de tout ça, pour ne pas se rater ?
Je voudrais d'abord vous poser une question, Philippe. Saviez-vous qu'il y a l'équivalent d'une tour Eiffel en Auvergne ?
Une tour Eiffel ?
Eh oui, non, c'est pas une plaisanterie. Le viaduc de Garabit, si vous voulez, dans le sud du Cantal, au-dessus des gorges de la Truyère. C'est un ouvrage d'art absolument magnifique, tout en métal, construit par Gustave Eiffel en 1879. Une vraie prouesse architecturale et un chef-d'œuvre. 564 mètres de long, 122 mètres de haut et une immense arche. Quand on voit ce viaduc, franchement, quand je l'ai vu pour la première fois, c'était il y a 2 ans, je me demandais comment c'était possible de construire entre une vallée aussi encaissée un ouvrage métallique comme ça. C'était un défi gigantesque, un chantier qui a duré 4 ans et qui a mobilisé 400 hommes. Les pièces de métal étaient usinées à Paris, elles étaient acheminées par un train et ensuite par un attelage. Quelque chose vraiment d'impressionnant. Alors je précise qu'on ne peut pas marcher sur ce viaduc parce qu'il supporte une ligne ferroviaire, la ligne Paris-Béziers, qui est toujours en activité. Mais on peut l'admirer de la route en contrebas, ou encore mieux, ce que j'ai fait, on loue une barque, un petit canoë, et on longe la vallée de la Truyère et on arrive face à cette arche magnifique, ce viaduc magnifique en métal. C'est quelque chose de très impressionnant. Alors le soir, je précise, il est complètement illuminé. On a franchement l'impression de voir un dragon de métal qui fait le grand écart entre les deux rives de la Truyère. Moi, j'adore ce côté de mélange entre l'aspect industriel, métallique, et ce côté nature brute et minérale. Je trouve que ça fait un contraste absolument saisissant. C'est un très bel ouvrage qu'il faut visiter quand on est dans le Cantal.
Vous savez ce que j'aime chez vous, Jean-Bernard ?
Oui, dites-moi.
On parle d'une région qui a un site naturel extraordinaire, composé de 80 volcans, classé au patrimoine mondial de l'humanité. Et le premier truc dont vous me parlez, c'est d'un pont.
Mais on va parler de paysage maintenant. Je sais que vous voulez que je parle des paysages.
Et du pont, on voit les paysages.
C'est son côté lorrain.
C'est son côté lorrain. Les fourneaux, là.
C'est ça. Il faut du métal quelque part, quand même. Sinon, ça ne va pas.
C'est vulcain, en fait.
Il y a le côté vulcain, voilà. Alors, il y a quand même un paysage que je voudrais vous mentionner, parce que celui-là, il m'a arraché les tripes aussi. Et vous ne le connaissez pas, Philippe, j'en suis sûr. On l'appelle la Petite Mongolie. Vous savez où c'est, ça ?
Pas du tout.
C'est la région qu'on appelle le Cézallier. C'est à la frontière entre le Cantal et le Puy-de-Dôme. Ouais. Même les Auvergnats ne la connaissent pas si bien que ça, cette région-là. Elle est complètement isolée. C'est un bout du monde, comme je les aime. Beaucoup moins touristique, évidemment, que cette fameuse chaîne des puits que vous adorez, mon cher Philippe.
Mais il dirait ça presque avec un air un petit peu...
Il devient insolent, ça se dégrade, en fait.
Alors, pourquoi on l'appelle la Petite Mongolie ? Par analogie avec les immenses steppes mongoles, parce qu'il y a plein d'étendues herbeuses, ondulées, à plus de 1000 mètres d'altitude. On se croirait vraiment dans dans un autre pays, c'est le royaume des pâturages. On dirait un tapis de velours avec en toile de fond les crêtes du mont du Cantal. C'est vraiment très spectaculaire. Et en plus, c'est une région qui est très faiblement peuplée, Nathalie. Il n'y a personne, une poignée de villages.
Qu'est-ce que je vais y faire?
Ben, vous irez au hameau qui s'appelle la Godivelle, 21 habitants. J'y étais il y a exactement un an.
On mange des godivots?
Non, je vais vous dire ce qu'on y fait, pas ce qu'on y mange. Il y a un tout petit restaurant, mais ce n'est pas forcément pour ça qu'on vient. 21 habitants seulement, complètement perdus au milieu de cette petite Mongolie, 1200 mètres d'altitude. J'en parle avec des trémolos dans la voix parce qu'il y a exactement un an, j'étais sur place. Et ce qu'on peut faire, c'est qu'en fait, ce village, il est entre deux lacs. Il y a un lac au-dessus qu'on appelle le lac d'en haut et il y a un lac en dessous qu'on appelle le lac d'en bas.
C'est
logique. On peut faire une petite boucle, un espèce de 8 comme ça. Il y a 200 mètres de dénivelé, c'est très facile à faire. Mais au niveau géologique, c'est vraiment impressionnant.
Et je crois que c'est bien hiver comme été, ce que m'a dit un guide de moyenne montagne. Hein, vraiment.
Le Cézallier, c'est aussi prenant en été qu'en hiver.
Ouais,
c'est vraiment une région très impressionnante. Alors pour le découvrir, il y a un moyen assez ludique, si vous ne voulez pas faire de marche autour de ces deux lacs. Le Cézallier, cette immense étendue, cette immense steppe, on peut aussi emprunter un vélorail. Ça a été aménagé il y a quelques années.
Ah, je connais.
Voilà, le fameux vélorail qui fait 32 km de voie ferrée. Il y a plusieurs parcours au départ de la gare de Landerra.
Ouais.
D'ailleurs, cette gare de Landerra...
Il faut pédaler ferme, hein, c'est
alors,
dur.
Non, parce que depuis l'année dernière, ils ont mis en place un système de vélorail à assistance électrique.
Ça, c'est bien pour moi.
Et ben, c'est pas bête parce que c'était dur.
Alors, la gare de Landerra, j'adore parce que c'était une ancienne gare de transhumance. Chaque année, il y a des dizaines de milliers de bovins qui transitaient. Alors, aujourd'hui, maintenant, ben, c'est les touristes qui viennent. Mais franchement, on traverse des paysages sublimes à simplement 5 ou 10 km heure à la force du mollet ou alors par assistance électrique. C'est vraiment une expérience à ne pas manquer quand on est dans le Cézallier.
Alors, quand on parle de ces paysages perdus, de ces burons isolés, alors on a envie de vivre ça, mais on dort où pour être au plus près de ces territoires?
Vous venez de le dire, Philippe, on dort dans les burons.
Ah, c'est possible.
Eh bien oui, c'est ça qui est génial. Emmanuel a parlé des burons sur l'aspect récolte fromagère, etc. Il y a toujours les bergers d'estive qui y sont, mais il y a des burons qui ont été aménagés en gîtes, et certains même des gîtes de charme et de luxe.
Et vous connaissez le buron de Banne.
Voilà, le fameux buron
de
Banne.
Je sais tout.
1500 euros. Les deux nuits, c'est un buron de luxe.
1500 euros.
On peut loger à 10 dedans. Hein. Ah. C'est un buron très chic.
C'est un endroit hors du monde. Hein. C'est extraordinaire.
Moi, je dors dans mon bureau, voyez-vous.
Mais deux heures de randonnée pour y aller.
Ouais, deux heures. Il se mérite celui-là. Mais c'est un des plus beaux du Cantal et d'Auvergne. C'est vraiment une expérience incroyable parce que vous avez une vue phénoménale tout autour. Hein. Alors, il faut prévoir un petit peu son ravitaillement. Ouais. À l'intérieur, tous les objets ont été chinés. On s'éclaire à la bougie. Il n'y a pas d'électricité. Il y a de l'eau de source. Il y a un poêle à bois pour se faire son feu, enfin, si vous avez vraiment envie de faire une retraite hors du temps, c'est vraiment dans un bureau qu'il faut aller.
Je raconte juste une petite anecdote. J'étais allé faire un reportage dans un bureau, un fabricant de fromage de Salers. Puis oui, évidemment, on voulait manger le soir, puis il n'y avait rien à manger dans le secteur. Il faut aller loin pour trouver à manger.
Loin.
Et il dit, je vais vous faire une fondue. Bon, j'étais content, mais une petite fondue avec du Cantal. Je me dis, pourquoi pas, c'est pas réglementaire, mais allons-y. Et vous savez ce qu'il fait? Il prend une grande casserole d'eau chaude, il la fait bouillir et il jette le fromage dedans. C'était pour me faire plaisir. J'ai rien dit, on a mangé.
C'était une expérience au moins authentique.
Oui, c'était authentique. Voilà. Bon, non, mais authentique, oui. Est-ce qu'il y a une ville que vous aimez tout particulièrement?
On a parlé de Salers, justement, pas simplement pour le fromage, mais le village ou le bourg, c'est plus qu'un village.
Magnifique.
Le bourg de Salers, c'est absolument superbe. Ça fait partie des plus beaux villages de France. Emmanuel a parlé du côté récolte, etc. Mais pour l'architecture, ce village, ce bourg mérite vraiment la visite. On se croirait vraiment dans un télétransporté dans une autre époque. Il y a un château Renaissance, des tourelles, des maisons en pierre, des ruelles étroites. Et puis, il y a même des fêtes auvergnates en ce moment. Alors, j'espère qu'elles ont été maintenues à cause de la crise sanitaire. Mais autour de la place centrale, on peut vraiment assister à des danses folkloriques pendant tout l'été. C'est un rendez-vous incontournable quand on est du côté du Cantal.
On n'a pas parlé d'Aurillac.
Alors, Aurillac, figurez-vous, c'est la capitale française du parapluie. C'était une industrie florissante.
Ah, c'est pas Cherbourg ?
Non. Ça a marqué l'histoire de la ville au 19e et 20e siècle. Jusque dans les années 30, Aurillac produisait jusqu'à 1 million de parapluies par an. Alors aujourd'hui, évidemment, c'est plus trop le cas. Mais il y a une entreprise sur place qui a subsisté, qui perpétue ce savoir-faire. C'est la maison Pigagnol.
Magnifique.
Voilà, classée entreprise du patrimoine vivant. Ouais. Ça fait 5 générations de père en fils qu'ils perpétuent ce savoir-faire. Attention, ils ont pris le virage du très haut de gamme, du luxe. Ce sont des accessoires très fashion, très redesigné, très stylé.
Oh, fashion, très traditionnel quand même.
Alors, enfin,
très...
entre 100 et 400 euros le parapluie.
Mais
quand
je me
même.
Suis acheté un parapluie.
Voilà, c'est des accessoires de mode. Et je précise, pour la première fois de son existence, cette manufacture ouvre ses portes au public jusqu'à demain, 24 juillet, pour visiter les ateliers.
Merci beaucoup Jean-Bernard. Dans un tout petit instant, après le flash de 17h sur Europe 1, nous partirons dans ce pays à l'histoire incroyable. C'est un pays qui a été découvert par Christophe Colomb en personne en 1492, qui est surnommé la perle de l'Atlantique et qui, depuis la révolution de Fidel Castro en 1959, vit un destin à part. Un pays où la chaleur humaine est aussi intense que le sens de la débrouille. Nous irons à Cuba dans un petit instant sur Europe 1.
Merci de passer votre été sur Europe 1. Il est 17h, les infos, Christophe Lamarre.
Le rythme de la pandémie de coronavirus continue d'accélérer dans le monde. 5 millions de nouveaux cas enregistrés depuis le 1er juillet. Les États-Unis restent le pays le plus touché. En Espagne, l'épidémie repart également à la hausse, notamment en Catalogne. Le gouvernement affirme cependant que la situation est sous contrôle. Une réponse aux pays étrangers, et notamment à la Grande-Bretagne, qui a décidé de placer en quarantaine tout voyageur en provenance d'Espagne. En France, Olivier Véran l'annonce dans Le Parisien, les tests PCR qui permettent de dépister les cas de coronavirus seront intégralement remboursés, même sans ordonnance. Le ministre de la Santé demande par ailleurs aux jeunes d'être vigilants quant au respect des mesures barrières. Le déplacement de Gérald Darmanin perturbé à Saint-Étienne-du-Rouvray. Le ministre de l'Intérieur était venu participer aux hommages rendus au père Hamel, assassiné il y a 4 ans par 2 djihadistes. Son discours a été interrompu par un ou plusieurs individus qui ont crié « Darmanin, sale violeur ». 11 personnes ont été interpellées, 4 sont toujours en garde à vue, indique la préfecture. L'incompréhension à Nantes après le passage aux aveux du principal suspect dans l'incendie de la cathédrale. Le bénévole du diocèse a reconnu avoir mis le feu à 3 endroits différents, sur le grand et le petit orgue et dans un panneau électrique. Il a été mis en examen pour destruction et dégradation par incendie et placé en détention provisoire. Son avocat le décrit comme apeuré et dépassé par son geste. Il risque 10 ans de prison et 150 000 euros d'amende. L'enquête sur l'homicide commis dans le quartier de l'Ariane à Nice, un homme de 20 ans est toujours en garde à vue. Il s'est spontanément présenté aux policiers. Une dispute pourrait être à l'origine de la mort d'un homme de 28 ans dont le corps a été retrouvé dans le garage d'un immeuble. Aux États-Unis, l'élection présidentielle aura lieu dans 100 jours. Donald Trump est toujours à la peine dans les sondages. L'actuel locataire de la Maison-Blanche paye sa gestion critiquée de la crise du coronavirus, mais également celle de la crise économique. L'Amérique affronte un climat de manifestation qui s'empare de plusieurs grandes villes. Les rassemblements se multiplient pour dénoncer le racisme, les violences policières. L'envoi des forces fédérales, notamment à Portland, n'arrange rien. Plusieurs affrontements se sont produits entre manifestants et policiers, des défilés et des rassemblements également à Austin, Louisville, New York, Oakland et Los Angeles. La gestion de la crise sanitaire et économique, source de manifestations d'ailleurs un peu partout dans le monde. En Thaïlande, les universités se rebellent contre la monarchie. Plusieurs milliers d'étudiants manifestent pacifiquement depuis une semaine. Ils réclament la démission du gouvernement en place et davantage de démocratie. Circulation normale sur les routes aujourd'hui. La journée est classée verte par Bison Futé dans le sens des départs comme des retours. Et puis la confirmation d'un grand talent, Fabio Quartararo remporte le Grand Prix d'Andalousie catégorie MotoGP. 2e victoire consécutive pour le Français cette saison. C'est aussi la 2e de la carrière de ce jeune pilote de 21 ans. Il en profite pour prendre le large au classement du championnat du monde des pilotes.
Merci Christophe Lamarre et merci à vous d'être à l'écoute d'Europe 1. Les prochaines infos, ce sera avec le Grand Journal à 18h avec Marion Calais. Tout de suite, le voyage continue avec Philippe Googler. Et si on partait sur Europe 1 ?
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et si on partait, 2e heure, c'est l'été. C'est le moment de lâcher prise, de laisser faire, de rêver. Décollage maintenant.
16h, 18h. Et si on partait ?
Philippe Googler sur Europe 1.
Aujourd'hui, je vous emmène dans un pays fascinant. C'est un pays où on roule encore souvent dans des vieilles voitures américaines des années 50, toutes rafistolées. Un pays qui, depuis la révolution qu'il a connue en 1959, n'a pas évolué tout à fait comme les autres. Il a été comme aspiré dans une sorte de parenthèse temporelle.
Queridos compañeros, despedir, reunirnos hoy temprano, antes de que nuestro sol caliente demasiado.
Et c'est un pays où tout se mêle. Le passé, le présent, la joie de vivre, les difficultés, les couleurs, la chaleur. C'est un torrent d'émotions unique. Je vous emmène à Cuba. Et à Cuba, pour moi, la ville, c'est La Havane. La Havane, c'est tout de suite une sensation très forte. C'est une ville qui vous prend aux tripes. Vous êtes tout à coup dans ces ruelles qui semblent faites de vieilles demeures fatiguées, patinées par le temps et même souvent vermoulues, décrépies, voire à moitié effondrées, mais qui en fait à l'origine sont magnifiques. Ce sont souvent des palais et il y en a des centaines comme ça dans toute la Havane. Vous pouvez vous retrouver au milieu d'édifices qui datent du XVIe siècle, qui sont des merveilles et en même temps totalement en ruine. Il y a des centaines de bâtiments historiques comme ça qui se sont effondrés dans la Havane. Alors, il y a eu ces derniers temps des vastes plans de réhabilitation, des quartiers entiers ont été restaurés. Mais il y a encore beaucoup de travail et une bonne partie de la ville reste, si j'ose dire, dans son jus. Car ce qui rajoute à cette impression unique, c'est que ces demeures, au départ plutôt aristocratiques, depuis la Révolution, ce sont les gens du peuple qui les habitent. Et il y a beaucoup de monde à l'intérieur. Les demeures ont été divisées en petits appartements. Et puis, du coup, autour, les rues de ces vieux édifices sont extrêmement populaires, remuantes. Quand je dis remuantes, c'est à la cubaine. Hein. Il y a du monde partout, on s'interpelle de balcon à balcon. Il y a de la musique. Il y a des petits vendeurs de toutes sortes, comme des cordonniers ou même des réparateurs de briquets, des coiffeurs. Je suis même tombé une fois, et c'était lors d'un tournage de Faut pas rêver, c'était une maison comme ça qui avait l'air classique dans le quartier et il y avait un étrange bouton de sonnette au milieu d'une façade. Je me demandais bien à quoi il pouvait servir, il n'y avait aucune mention particulière. Il n'était pas à côté d'une porte, c'était juste un gros bouton au milieu d'un mur. Donc je me suis mis un peu sur le côté, j'ai attendu pour voir, intrigué, et je vois tout à coup une jeune fille en tenue d'écolière, à Cuba les écoliers ont des costumes, et elle vient appuyer sur ce bouton. Et ça se fait comme ça, très naturellement. Puis elle recule, elle regarde, et elle regarde en l'air, en haut de l'immeuble. Et là-haut, il y a un gars qui apparaît tout en haut sur une terrasse, il la regarde, et elle crie « Un duro frío, por favor !» Alors, duro frío, ça veut dire un dur froid. Alors, le gars sur sa terrasse dit ok, de la tête, il accroche un panier au bout d'un câble relié à une poulie et il descend comme ça le panier jusqu'au niveau de la jeune fille. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a? Un dur froid. Qu'est-ce que c'est, d'après vous, à Cuba, en pleine chaleur? Eh bien, c'est tout simplement une glace. Une bonne glace cubaine, délicieuse. Et le gars, c'est tout simplement un vendeur de glace qui bosse depuis chez lui. Tout le monde le connaît là-bas. À Cuba, c'est comme ça. Pas beaucoup de panneaux, pas beaucoup d'indications, mais on se parle beaucoup. C'est le bouche-à-oreille permanent. Il faut discuter pour savoir. Et il y a des centaines de petits métiers comme ça partout, surtout depuis que le régime cubain autorise un certain nombre de métiers comme ça, d'activités privées, alors qu'auparavant, tout était géré par l'État. Voilà, la Havane, c'est tout ça en même temps. C'est à la fois magnifique, en ruine, plein de vie, surprenant, en rénovation, dans son jus. Et tout ça, c'est unique au monde.
16h, 18h.
Et si on partait? Philippe Bougler.
Nous allons prolonger le voyage à la Havane dans un instant. C'est un pays vraiment fascinant où, comme ça, l'histoire imprègne le présent d'une manière unique. Il n'en ressemble à aucun autre, cet endroit. On se retrouve dans un tout petit instant avec un Savoyard installé à Cuba depuis de nombreuses années. Il va nous raconter comment il vit tout ça. À tout de suite.
16h, 18h.
Et si on partait? Philippe Bougler.
Tous les après-midi, un grand voyage sur Europe 1. Nous sommes aujourd'hui dans la perle des Caraïbes, à Cuba. Une histoire, un destin qui ne ressemble à aucun autre. Jean-Bernard Carrier du guide Lonely Planet. Déjà, il faut redire où c'est. Où est-ce que c'est Cuba ?
Alors, vous l'avez dit, dans les Caraïbes. Mais où dans les Caraïbes ? Oui, alors, juste en dessous des États-Unis, à 170 km à peu près des côtes de la Floride. Juste au-dessus, il y a aussi les Bahamas. Ouais. Et juste en dessous, il y a l'île de la Jamaïque. Ouais. Alors, il faut quand même préciser que l'île de Cuba, c'est la plus grande île des Caraïbes. Elle est immense. Elle fait 1250 km d'est en ouest.
Mais elle est plus longue que large.
Voilà. En revanche, elle est très aplatie. Ça fait à peine 180 km de large au maximum. On dit que ça a la forme d'un crocodile.
Ouais, c'est vrai. Voilà. D'ailleurs, il y a beaucoup de crocos à Cuba.
Il y a beaucoup de crocodiles. Voilà. Et tout l'intérieur est assez montagneux. C'est des petites chaînes de montagnes qu'on appelle les Sierras, qui font à peu près entre 1000 et 1800 mètres d'altitude.
D'accord. Plus des plages magnifiques.
Ah, j'ai oublié 300 plages naturelles absolument sublimes. Et même quelques îles et des récifs coralliens au large de l'île.
Tout à fait. Une île que j'aimais, c'est l'île Coco.
Et l'île Coco, voilà. Très et chouette. Aussi l'île de la Jeunesse. Enfin, il y a tout pour plaire à Cuba. Ouais.
Nous sommes en ligne avec Cuba, avec Fabrice Mercorelli, un Savoyard installé donc à Cuba. Vous êtes à la tête de l'agence de voyage C2C Travel. Bonjour Fabrice.
Bonjour Philippe.
Il est quelle heure à Cuba? Il fait quel temps là-bas?
Alors il est 11h10 du matin et il fait grand beau, soleil et chaleur.
Comme souvent. Alors, vous êtes arrivé à Cuba en 1994, vous êtes de Courchevel, ça a dû vous changer quand même, comme atmosphère. Ouais, on parlait de la Havane il y a un petit instant, il y a un moment donc, que je n'ai pas évoqué, c'est la Havane le soir. J'adore l'ambiance de la Havane le soir sur le Malecón. Vous aimez ça aussi ?
Oui, alors c'est plusieurs choses. C'est d'abord les couleurs, le coucher de soleil sur le Malecón. Alors le Malecón, qu'est-ce que c'est ? Le Malecón, c'est un grand boulevard qui borde la mer à La Havane, qui fait 11 km de long. On l'appelle aussi le plus grand canapé de La Havane, puisque le soir, en fin d'après-midi, les Cubains vont s'asseoir sur ce mur pour regarder le coucher de soleil, pour aussi écouter de la musique, pour boire des canons et juste pour profiter de ces couleurs qui sont magnifiques. Tout à l'heure, tu as parlé de ces immeubles délabrés avec ces couleurs pastels. Ben, ça, c'est le Malecón. Ça, c'est l'image que tout le monde a dans la tête de la Havane. Et tous ces gens assis sur le mur qui discutent, qui écoutent de la musique et qui se font plaisir.
Emmanuel ?
Et pour s'embrasser aussi. Moi, j'ai vu beaucoup d'amoureux.
C'est vrai.
Oui, j'allais dire, c'est un peu le coin drague hein, quand même.
Oh, pas que. Ce serait dommage de réduire le Malecón au coin. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'amoureux.
Il y a un petit peu de ça quand même.
Il y a beaucoup d'amoureux.
Il y a de tout. Il y a de la drague, il y a de la balade, il y a du sport, il y a tout ce qu'on veut.
Ouais, il y a tout ce qu'on veut. Ça, on se retrouve, on se donne rendez-vous sur le Malecón pour aller discuter le soir. Non, c'est très romantique, très, très charmant. Et quand la mer est un peu démontée, quand il y a du temps, eh bien les vagues aspergent le Malecón.
Oui, c'est impressionnant.
C'est impressionnant et les jeunes...
On ne peut pas se bécoter là-bas. Alors.
Oui, oui, parce que là, on est trempé. Et les jeunes jouent beaucoup avec les vagues et tout, c'est chouette. Alors, en 1959, donc évidemment, il y a la révolution à Cuba. Il y a une sorte de brutal changement pour ce pays. Les choses semblent parfois s'être arrêtées. Et la débrouille depuis s'est mise en place et ça fait 50 ans, enfin plus que depuis 59, ça fait plus que 50 ans maintenant, ça fait un bout de temps qu'on vit dans la débrouille. Et par exemple, il y a des voitures américaines là-bas qui ont 70 ans, qui étaient déjà là à l'époque et qui roulent toujours, qui sont toujours maintenues en l'état. Comment c'est possible ?
Alors d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, il y a un parc historique de vieilles voitures américaines qui est fabuleux. Il faut savoir, c'est qu'à l'époque, on faisait des voitures qui étaient des voitures pour durer.
Oui.
Donc la voiture, elle marchait et c'était du solide. C'est qu'après, on a un petit peu apporté la notion de durabilité des voitures, hein, qui étaient faites pour durer 5-10 ans, voilà. Mais là, à l'époque, on faisait des voitures qui duraient. Et donc ces voitures, elles durent. Et la débrouille des Cubains fait qu'ici, on répare tout. Tout avec tout. Donc on transforme souvent ces voitures en décapotable, de manière à pouvoir promener les touristes. Et puis, comme il y a des problèmes d'essence, eh ben, un moteur de 8 pistons ou de 12 pistons, ben, on réduit le nombre de pistons pour réduire la capacité d'essence. Voilà, donc c'est des gros débrouillards et des mécaniciens hors pair.
Mais pourquoi est-ce qu'ils ont toujours ces vieilles voitures ? Ils n'ont pas le droit d'acheter des voitures récentes ?
Alors maintenant, on commence à avoir un petit peu des voitures récentes qui arrivent petit à petit, mais principalement ces voitures américaines, ils ont la propriété. Donc toutes les voitures récentes qui arrivent, on va dire, elles arrivent pour le tourisme, elles arrivent pour des entreprises d'État. Et donc les Cubains qui ont leur voiture, Souvent, c'est des vieilles voitures américaines qui retapent et qui mettent en l'état pour que ça fonctionne. Et pour le plus grand plaisir des touristes et des gens qui viennent voir ces voitures. Un vrai musée roulant.
Ouais. Alors, ça a été très longtemps totalement interdit de faire du business pour soi-même, d'avoir une entreprise privée à Cuba. Depuis quelques années, ça s'est un peu ouvert, un peu élargi. Comment vous avez réussi à faire du business là-bas? Vous avez dû utiliser des ruses?
Alors, des ruses, non. Pour faire du business, l'investissement étranger, c'est quelque chose dont les Cubains ont besoin. Et dans le tourisme où je me suis installé il y a maintenant 26 ans, le tourisme, c'est un apport de devises pour le pays. Donc, c'est une chose de simple et de facile. Après, effectivement, comme tu le dis, il y a des règles, et des règles qui existent comme partout dans le monde, et notamment quand le tourisme a été ouvert, parce qu'il faut bien comprendre que le tourisme s'est ouvert dans les années 90, 94, 95, avec le gros développement dans les années 95, 96, il y a des choses qui n'étaient pas faites pour le touriste. Par exemple, ces vieilles voitures américaines, pour les touristes, on achetait des bus, on achetait des voitures modernes pour qu'ils puissent se promener. Mais à cette époque-là, les Cubains, les autorités, n'imaginaient pas qu'un touriste voudrait monter dans une de ces voitures américaines.
Et donc, vous avez fait comment ?
Et donc, moi, j'ai eu l'idée de commencer à faire monter les touristes dans les voitures. Alors, au départ, c'était pas permis, mais on le faisait un petit peu... j'arrêtais des gens dans la rue, je leur demandais s'ils voulaient bien emmener quelqu'un d'un point à un autre. Donc j'ai fait ça une fois, deux fois. Comme c'était un petit peu risqué pour les chauffeurs de faire ça, parce que c'était interdit, donc il a fallu trouver des manières de rendre ça officiel. Alors la première manière que j'avais trouvée à l'époque, c'était de faire des tournages. J'avais un ami qui était un très grand documentaliste cubain. Et un jour, en lui parlant de mes problèmes, il m'a dit « Mais Fabrice, moi j'ai des voitures, et puis on peut faire un tournage. » Et donc on s'est mis à faire des tournages de voitures. Jusqu'au jour où il m'a dit, Fabrice,
j'ai des tournages, vous en faites
trop de tournages.
Vous en profitiez pour
emmener des touristes. Moi, j'en profitais pour monter des touristes et puis faire des transferts, en fait, d'un hôtel à un restaurant, par exemple.
Okay. On va rester avec vous pour parler de Cuba, parce que le sujet est évidemment infini. On se retrouve dans quelques instants sur Europe 1. Nous sommes à Cuba, sur la perle des Caraïbes, et très exactement à la Havane. Il y a un truc très étonnant là-bas qui se passe le samedi matin, c'est en plein centre-ville. Alors vous avez des gens qui se baladent comme ça sur la place qui s'appelle le Prado, je crois, qui se baladent avec une pancarte en carton sur la poitrine, accrochée autour du cou, comme ça, avec visiblement des chiffres et écrit en gros « vendo, vendo », ce qui doivent leur dire « à vendre » ou « je vends », quelque chose comme ça. Alors c'est un peu étrange.
Ça ne me dit rien, ça.
Parce que des fois, il y a des photos qui sont avec ces pancartes. Et bien, ces gens, en fait, ils sont en train de vendre leur appartement.
Ah oui ?
Oui, parce que pendant très longtemps, il était interdit à Cuba de vendre son appart. Vous deviez rester là où vous êtes, ou alors trouver quelqu'un pour échanger l'appartement. Ce n'était pas facile. Et il y a quelques années, il est devenu possible de vendre. Donc les gens viennent eux-mêmes faire la promo de leur appart sur une place. Alors c'est à la cubaine, hein, c'est assez vivant. Vous pouvez échanger ou acheter. Vous pouvez échanger par exemple un appart avec un balcon contre un appart avec une deuxième chambre. C'est comme ça qu'on traite. Et je me rappelle d'une dame qui voulait absolument un appart avec une deuxième chambre. Elle le criait haut et fort sur la plage, je veux un appart avec une deuxième chambre, etc. Et donc je lui demande pourquoi elle voulait absolument un appart avec une deuxième chambre. Et elle m'avait répondu, et c'est pour ça que j'adore les Cubains, elle disait qu'elle avait besoin de souffler une fois par mois. Alors je dis, mais comment ça, souffler? Bah oui, j'ai besoin au moins une fois par mois de ne pas dormir avec mon mari, ce serait déjà pas mal. Et là, elle rajoute, vous savez, comme ils sont les Cubains, ils sont vigoureux.
Oh, la réputation.
Et c'est à la bonne franquette, c'est comme ça. Et c'est ça que j'adore à Cuba. Vous connaissez cette place?
Oui, bien sûr. En fait, c'est pas une place, c'est l'avenue centrale du Prado.
D'accord.
Et c'est un Prado. Il y a une grande esplanade centrale et les gens, effectivement, le samedi matin, se retrouvent là. Ouais. Alors, à l'origine, c'était pas de la vente, c'est comme tu le dis bien, c'était la permuta. La permuta, c'est échanger.
Ouais.
Parce que quand on voulait changer de quartier ou souvent s'agrandir ou se réduire, eh bien, on allait échanger sa maison contre une autre.
Vous imaginez Stéphane Plaza avec une pancarte en carton et des numéros en train de marquer Vendo Vendo au milieu des rues de la Havane.
Je vois bien la chose.
Est-ce que les étrangers ont le droit d'acheter des belles demeures et de les retaper aujourd'hui à la Havane ou toujours pas?
Non, toujours pas, toujours pas. Uniquement les Cubains et les étrangers résidents permanents peuvent acheter une maison. Mais sinon, en fait, ils veulent protéger le fait que les Cubains, que d'autres gens arrivent de l'étranger, se mettent à acheter toutes les belles maisons. Aujourd'hui, il y a un déficit de maisons et de logements à La Havane. C'est pour ça que les gens habitent beaucoup entre eux en famille. On trouve souvent des familles dans un même appartement, une même maison, deux, trois, voire quatre générations qui habitent ensemble. Donc, donner le droit d'acheter à tout le monde, ça serait un petit peu quitter les maisons aux Cubains.
Bien sûr. Alors les Cubains, moi je trouve que c'est un peu formidable. Il y a une espèce de naturel, de plaisir à échanger, à discuter. C'est formidable d'être au milieu des Cubains.
C'est sympa. Il y a une gentillesse, une solidarité et surtout une culture. Oui. Alors ça, c'est le truc qui moi m'a un peu, qui m'a plus surpris et quand je suis arrivé ici en 94-95, c'est la culture des gens et la gentillesse.
C'est vrai que les gens sont
souvent
très...
j'aime raconter une petite histoire.
Oui, allez-y.
Oui, j'aime raconter une petite histoire. J'étais à Pinar del Río, dans la vallée de Vignales, donc la campagne complète, etc. J'étais assis sur ma rocking chair devant la maison, à fumer mon cigare, mon Havane. Et un balayeur qui passe devant moi, je lui dis bonjour, il me dit bonjour. Et puis il s'approche de moi, il me dit mais tu es pas cubain toi? Je dis non, je suis français. Et il me dit ah, la France, la Révolution française, Danton Robespierre qui allait au café de l'angle de la rue. Et il a commencé pendant une heure à me parler de la Révolution française que je ne connaissais pas. Et ça c'est Cuba, ça c'est la culture, ça c'est les gens.
Mais parce qu'il y a un niveau d'éducation qui est très élevé à Cuba.
Beaucoup d'études supérieures.
Énormément d'études. Et c'est vrai qu'il est très facile de discuter de beaucoup de choses avec tout un chacun. Et il y a une culture très répandue. D'ailleurs, c'est un pays également où il y a beaucoup, beaucoup de médecins. Parce que là encore, les études sont gratuites. Et un haut niveau d'éducation en termes de santé. C'est un pays très contrasté parce qu'en même temps, il y a beaucoup de gens qui manquent de tout. C'est très difficile de trouver du papier, de la nourriture, etc. C'est un pays très, très, très complexe. Comment vous le ressentez, vous, ça?
Ben, c'est un pays qui a gardé des valeurs d'aide et d'éducation, de culture, de sport, d'entraide. Quand on parlait de ces maisons dans le centre de la Havane, quand on fait un gâteau à la maison, il y a une part qui vient pour le voisin. C'est quelque chose d'automatique. Ouais. Après, ce qu'on peut dire sur les médecins, c'est le pays qui a le plus de médecins par nombre d'habitants. Et au milieu de cette pandémie et d'autres problèmes qu'il y a eu dans le monde, c'est le pays qui a exporté ses médecins pour qu'ils aillent aider d'autres pays. Donc on a, pour nous en France, il y a des médecins en Martinique, il y a des médecins en Andorre, des médecins cubains en Italie. Et dans 30 pays dans le monde, ils sont partis aider les malades. Ils avaient fait la même chose avec Ebola ou des catastrophes naturelles. Ils étaient partis aider les gens.
Alors c'est un pays très compliqué parce qu'en même temps, c'est très compliqué d'accéder à Internet, c'est compliqué de trouver de la nourriture, c'est compliqué. C'est un pays où on doit se débrouiller en permanence, la vie est compliquée. Et en même temps, il y a ces avantages-là. C'est vraiment cette double perception des choses qu'on a tout le temps à Cuba.
C'est très contradictoire.
Très contradictoire,
décalé.
Et unique au monde. On continue à parler de Cuba dans un tout petit instant sur Europe 1. Voilà, besoin de vous dire où on est avec cette musique. Nous sommes à Cuba et avec Nathalie Elal qui va nous plonger sur une période de Cuba qui se situerait, je dirais, juste avant la Révolution.
Oui, 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 absolument. C'est l'époque... J'adore cette musique. C'est l'époque où on surnommait Cuba le bordel de l'Amérique. Alors, on est dans une ambiance de film noir, de mafia, mais c'est bien la réalité, vous allez voir. Parce qu'en fait, c'est l'époque où le pays est gouverné par le dictateur Batista qui va laisser entrer sur l'île, il est complice évidemment, hein, comme sur un terrain de jeu, les figures les plus importantes de la pègre de l'époque, c'est-à-dire le gangster Lucky Luciano et sa bande qui débarquent à la fin des années 40. Et entre 1952 et 1959, la capitale cubaine se couvre d'hôtels de luxe, de casinos, de clubs de striptease, de cabarets clandestins. C'est sexe, drogue et trafic en tout genre. Alors évidemment, pour les riches américains, les stars de cinéma d'Hollywood et les chanteurs en vogue, Cuba, c'est la fête, hein, c'est une boîte de nuit à ciel ouvert. Et encore, là, je suis poli. Et même John Kennedy est de la fête. Il n'est pas encore président des États-Unis, mais il est sénateur et déjà amateur de chair fraîche. Il paraît qu'il débarquait au mythique hôtel Comodoro de la Havane. Il s'enfermait régulièrement dans une suite avec trois
prostituées fournies par les mafiosos qu'il regardait.
John Kennedy ?
Oui, bah, vous savez que c'était... Oui, je ne peux pas dire le mot, mais enfin, c'était quelqu'un qui y allait gentiment, on va dire. Hein. Et donc, ces prostituées fournies par les mafiosi, donc, ils faisaient plein de choses vilaines. Et les mafiosi se marraient, se bidonnaient, le regardaient derrière des miroirs sans teint.
Non.
Pourquoi ? Bah, parce que Kennedy, en bon hypocrite, il prenait la loi... L'ordre et la décence, le WASP américain dans toute sa splendeur.
Il y avait des mafieux qui regardaient derrière les miroirs
Kennedy.
Bien sûr,
ils se bidonnaient, ils regardaient ses performances, ils disaient « T'as vu celui-là, ce qu'il est en train de faire et ce qu'il nous raconte, le petit décalage ?» Et pendant ce temps-là, bah, la population cubaine, elle est sous le joug du dictateur. Et puis c'est la révolution de 1959, menée par une poignée de guérilleros qui va mettre fin à toutes ces pratiques en renversant Batista. Le régime communiste va interdire la prostitution, enfin... officiellement, hein, parce qu'après, il va fermer les yeux sur bien des pratiques. Mais ça, c'est un peu une autre histoire. Tiens, d'ailleurs, à propos d'autre histoire, j'ai une petite anecdote sur les cigares cubains. Vous savez que c'est réputé. Hein, et vous savez peut-être aussi que les présidents ont toujours quelques penchants pour les cigares.
Ouais.
Et là, nous sommes le 6 février 1962. Oui, merci Serge. Quelques heures avant c'est de signer l'embargo de tout produit provenant de Cuba. Et le président, cette fois il est président, John Fitzgerald Kennedy, il donne alors l'ordre d'acheter le plus de cigares cubains possible. Le lendemain, évidemment, l'ordre est exécuté. 1200 cigares cubains sont achetés pour le président. Il est mis au courant et là, il s'empresse de signer le traité d'embargo. C'est une histoire véridique. Hein. Elle a été racontée pour la première fois en 1992 par l'ancien attaché de presse de Kennedy. Et elle a été confirmée, bien confirmée, en 2012, 50 ans après les faits, quand les archives du gouvernement américain sont devenues publiques.
C'est dingue, toutes ces... Dis donc, il en a eu pour son compte, Kennedy, là, avec
ah
vous.
Oui, vous trouvez ? Je trouve que j'ai été vachement sympa, moi.
Ouais. Fabrice Mercorelli, vous êtes toujours en direct avec nous depuis Cuba. Je rappelle que vous êtes savoyard de Courchevel, installé là-bas depuis 1994. Où est-ce que ça en est, là ? Parce qu'on entend tout un peu et son contraire sur Cuba. Est-ce que ça continue à s'ouvrir, à se changer, à s'ouvrir au commerce, au business des particuliers ? Parce que avec Obama, on a l'impression que ça s'ouvrait. Avec Trump, on a l'impression que ça se referme. Comment c'est aujourd'hui ?
Alors, d'abord, cette ère est passée. Hein, donc, les mafieux sont partis.
Ah oui,
et maintenant, on fait du business tranquille, même si les Cubaines avaient des charmes et des qualités qu'on ne peut pas nier. aujourd'hui, on est sur une ouverture. Et depuis quelques années, depuis pas mal d'années, les ouvertures. Il y a eu une embellie, on va dire, avec l'ère Obama. Il y a un très gros orage avec Trump maintenant, qui essaye par tous les moyens de casser les initiatives d'ouverture de la part du gouvernement cubain. Et oui, il y a plein de petits boulots qui se font. Cette crise qu'on vit en ce moment a permis aussi aux autorités de lancer des nouveaux programmes et des facilités pour les investisseurs. Il y a 4 jours à la télévision, on informait qu'à partir de maintenant, on pouvait créer des mini-entreprises et des micro-entreprises. Donc ça, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Avant, c'était juste des travailleurs qui travaillaient à leur compte. Aujourd'hui, on parle de mini-entreprises à titre privé. Et aussi, on leur donne la possibilité d'importer ou d'exporter. Donc ça dure 3 jours et c'est en train de se mettre en place. Plein de possibilités de business, mais aussi plein de possibilités de tourisme pour venir se protéger, se mettre dans un pays qui est à la fois une destination sûre au niveau de la sécurité, mais aussi au niveau de la santé. Donc on vous attend tous quand les vols s'ouvrent pour venir à Cuba, parce que c'est vraiment une expérience et un pays merveilleux.
C'est un pays fascinant, absolument. Même si, je tiens à le dire, la vie n'y est toujours pas forcément facile tous les jours. Merci beaucoup, Fabrice Mercorelli, d'avoir été avec nous. Dans un tout petit instant, nous parlerons petit plat, bon produit, avec Emmanuel Jarry dans quelques secondes sur Europe 1. Et si on partait sur Europe 1 tout l'été, je vous emmène dans les endroits les plus étonnants, les plus savoureux, les plus surprenants de la planète, juste pour le plaisir de rêver, d'imaginer, de s'évader. Nous sommes aujourd'hui à Cuba. Ah, Rum, bam, 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 c'est bien de rhum qu'elle parle, hein,
oui,
c'est ça,
oui,
Emmanuel
c'est
Jarry
ça, oui.
Donc évidemment, c'est une des boissons les plus célèbres à Cuba.
Ah bah ça, on en boit beaucoup, oui. Ouais. Moi, avant de commencer, je voudrais dire que Cuba, ça a été un énorme coup de cœur et je ne m'y attendais pas parce que j'ai plutôt un tropisme du côté de l'Asie.
Ouais.
Mais là, j'avoue que dans toute... Enfin voilà, j'ai adoré ouais. cette île. Et, alors c'est une cuisine métissée, on a beaucoup parlé des mélanges, ouais. etc. Et moi, j'aime bien retrouver à travers les plats, à travers la cuisine, l'histoire d'un pays. Et qu'est-ce qu'elle raconte, cette cuisine? Elle raconte évidemment la période espagnole, la période africaine, puisque les Africains sont venus travailler dans les plantations de canne à sucre, et entre 1821 et 1831, 10 ans, il y a eu 600 000 esclaves africains qui sont arrivés à Cuba.
600 000.
Donc vous imaginez, même si l'île est grande, enfin, sur une période de 10 ans, donc évidemment, ils sont arrivés avec leur religion, leur musique, ouais. leur cuisine, donc la patate douce, l'ignoble, et les Espagnols aussi sont arrivés avec leurs produits, le riz, les agrumes, la viande, et on retrouve tout ça dans la cuisine, en particulier dans un plat, l'arriaco, qui est emblématique de la cuisine cubaine, parce que c'est un mélange, un pot-au-feu dans lequel on met tout, des légumes, des tubercules, de la viande de bœuf, tout ce qu'on veut, c'est la cuisinière qui décide, des bananes plantain, du maïs, de l'igname. Mmh. Alors, vous ne me demandez pas si c'est bon, mais parce qu'en fait...
On est suspendu à vos lèvres, on aimerait savoir.
Non, mais en fait, moi, je dis toujours, tout peut être bon, ça dépend de la cuisinière. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que ça représente la nation cubaine, de la même manière, par exemple, que le steak frites local, si je puis dire. C'est-à-dire, c'est le poulet aux haricots noirs et au riz. Les haricots noirs et le riz qu'on appelle moros y cristianos, les morts et les chrétiens.
Ah, c'est marrant, ça.
Ouais, et c'est une façon, alors qu'on en mange dans toute la Caraïbe, mais là, on l'appelle comme ça, et c'est une façon peut-être d'exprimer dans l'assiette un idéal cubain où les noirs et les blancs se mêlent sans distinction.
Ah ouais, impressionnant. Ouais,
pas mal, je pense.
Et les saveurs cubaines par excellence, ce sont les saveurs sucrées. Alors les Cubains en sont fous, on mange beaucoup de flan coco et aussi des petites tablettes de manis, sont des arachides qui sont recouvertes de caramel et qui sont vendues dans la rue.
C'est super bon ça.
Hein, c'est très bon. Ah, alors elles peuvent être soit les petites arachides dans des cônes naturelles, soit avec du sucre, mais le sucre c'est plus qu'un ingrédient à Cuba, c'est l'histoire de l'île.
Ah bah oui, parce qu'une grosse partie de l'économie de l'île s'est développée avec le sucre.
Exactement, et d'ailleurs, pendant longtemps, Cuba a possédé le plus important réseau de voies ferrées de toute l'Amérique latine.
C'est vrai.
1200 km de voies, par exemple, le Pérou, à l'époque, au 19e siècle, n'en avait que 400. Donc vous voyez, si on regarde la différence de taille des deux pays...
Et je peux vous dire qu'il y a encore un réseau ferroviaire important pour un pays de l'Amérique latine.
Ah oui, d'accord, encore aujourd'hui. Donc ça, c'était pour le transport du sucre. Et donc voilà, le sucre, qu'est-ce que c'est? Le sucre, c'est le rhum. Et le rhum à Cuba, c'est plus qu'une boisson, c'est un graal. Et ça, je l'ai compris quand je suis allée à la rencontre d'un maestro ronero, je ne sais pas si je prononcerai bien, un maître romier. En fait, j'ai eu beaucoup de difficultés à obtenir un rendez-vous parce que c'était comme rencontrer un ministre.
Alors, quelle chance.
Mais c'est vraiment l'impression que ça m'a donné. En fait, ces maîtres romiers, c'est des grands personnages.
Ouais,
vraiment, qui sont très, très respectés à Cuba. Ils sont 8 sur toute l'île. Il y a 7 hommes et une femme. Ils sont payés par l'État cubain pour aider toutes les distilleries sans distinction à améliorer la technique, à améliorer le goût du rhum, la qualité du rhum. Et pour pouvoir devenir maître rhumier, il faut à la fois avoir des connaissances techniques, mais aussi des qualités un peu plus inattendues. Et alors, l'interview que j'ai faite de cet homme, je l'ai enregistrée. Je vais vous restituer mot pour mot les propos de ce maître rhumier parce que c'est assez surprenant. Alors, je le cite. « Le rhum n'est pas uniquement une boisson, c'est une partie de notre identité. Le rhum est multicolore, heureux, vivant, solidaire. Pour devenir maître, il faut connaître tous les aspects culturels, historiques, géographiques de Cuba, mais encore posséder des valeurs morales comme l'intégrité, la loyauté, afin de ne jamais trahir la tradition. »
Ah bon, pour faire du rhum.
Voilà, pour
il
faire
faut
du
tout
rhum.
Ça.
Et moi, si vous voulez, j'ai quand même interviewé des œnologues, enfin, des gens comme...
Mais pour boire le rhum, là, c'est autre chose. Hein, pas
exactement.
Autre chose,
hein. Non, mais je veux dire, c'est quand même incroyable. Et c'est une formation qui dure 15 ans.
15 ans ?
15 ans. Et pendant cette formation, on apprend
mais
les secrets.
Mais ils vont en cours une fois par semaine.
Non, c'est toute la journée. Non, mais c'est vraiment, c'est intensif. Hein. Ils sont 8, vous imaginez, pour s'occuper de toute la production du rhum de l'île. Et en fait, pendant 15 ans, on leur apprend donc toutes les techniques, mais aussi les secrets du rhum, dont je ne peux pas vous parler, puisque par définition, ces secrets, il n'a pas voulu m'en dire deux mots. Et donc voilà, le rhum, ce n'est pas seulement une économie, c'est quelque chose de très fort dans l'identité cubaine.
Oh, c'est mystique à ce niveau-là.
Ah bah complètement. Moi, c'est ce que j'ai ressenti pendant l'interview. Et quand un cantinero, un barman, ouvre une bouteille de rhum à Cuba, quand il l'entame, hein, pas à chaque fois qu'il l'ouvre, il verse quelques gouttes sur le sol pour les saints de la Santeria.
Ah, oui.
Santeria, c'est la religion afro-cubaine. Ouais, ouais. Et donc, je peux vous dire qu'on en ouvre souvent, hein, des bouteilles de rhum à Cuba. Donc, voilà, merci.
Ça fait comme ça, une bouteille de rhum,
hein. Il n'y a pas de bouchon.
Je ne suis pas sûr qu'il y ait un bouchon comme ça. Hein.
Oui, parce que Jérémy, notre réalisateur, est passionné de rhum.
Ah, ouais, ouais. Voilà,
et en fait, donc voilà, en fait, et ce qui m'a surpris, c'est que là-bas, les bars ouvrent à partir de 10h du matin et c'est parti pour les mojitos. Hein.
À 10h du matin ?
Tout à fait. Alors ça, c'était un truc incroyable parce que même les touristes, alors qu'il y a une chaleur écrasante, 80% d'humidité dans l'air, ils visitent les bars et à la fin de la visite, on propose un cocktail.
Et enfin, des vrais mojitos avec de l'alcool dedans.
Ah, ouais. Ah, parce que, ah oui, d'accord, un vrai mojito, c'est parce qu'il est
les
très
amis,
alcoolisé.
Les amis, tout ça avec modération.
Avec
bien
modération,
sûr, boire avec modération, même
sûr,
à 10h du matin.
On reste raisonnable.
Oui, c'est ça.
On ne s'emballe pas.
On passe de daiquiri à mojito, on passe de Cuba Libre à d'autres cocktails, c'est toute la journée. Et puis évidemment, quand on en a bu 3-4, eh ben, on danse dans la rue.
Oh oui,
on
n'arrête
pas.
Oui.
Ah voilà. Jean-Bernard, on a fait l'expérience.
Ah ben Jean-Bernard, il est dans tous ses états.
Ben, je vous raconterai.
Non, en privé, bien sûr.
Et c'est... Non, mais c'est vrai parce qu'en fait, les bars, ils sont très connus. Ils ont été fréquentés par Hemingway.
Oui.
Donc, c'est vraiment des monuments. Ça se visite comme ailleurs, on visite des musées. Donc, voilà, c'est cette ambiance dans la vieille ville de La Havane qui est d'une beauté, d'une sensualité incroyable.
Oui. Je voudrais quand même dire qu'il y a beaucoup d'endroits qui ont été réhabilités et restaurés que je trouve... Bon, c'est chouette parce que, voilà, bon, on est dans un décor presque à la Disneyland parce que c'est refait...
Un comme... petit peu trop.
Mais voilà, un petit peu trop.
Mais est-ce que vous parlez de... Floridita, ce bar là, vous savez, où on va tous, etc. Alors, donc, c'est un bar où il y a plein de touristes américains ou autres. Alors, c'est vrai qu'on peut à peine entrer, c'est très désagréable, mais si, moi j'ai goûté le daiquiri là-bas, il y a rien, franchement. Il n'y a pas de meilleur daiquiri
au
monde.
C'est le meilleur au monde,
donc,
ça.
C'est le meilleur au monde.
Ah, oui.
Mais c'est vrai que c'est un peu pénible parce qu'on a toujours l'impression d'être à Walt Disney, comme vous disiez.
Alors, il y a ces quartiers, c'est ce que je voulais dire, il y a des quartiers qui sont très, très restaurés, où on peut avoir l'impression que c'est un petit peu trop restauré. Mais il reste des quartiers entiers de La Havane qui ne sont pas restaurés. Et le conseil que je vous donne, c'est d'aller aussi dans ceux-là.
De sortir de la vieille Havane.
De sortir de la vieille Havane qui est très restauré, et pour aller dans la vieille Havane, qui est restée vieille.
Oui, c'est ça, Centro Havana.
Et là, vous allez toucher à l'âme cubaine de façon un petit peu plus évidente, en fait, plus simple.
Et comme ça, on est toujours dans le jus.
Et comme ça, vous êtes toujours dans le jus.
Bah, le jus, le rhum.
Ah, merci. Merci Nathalie pour cette précision.
Mais je vous en prie.
Ça me paraissait très important. À suivre dans un instant les bons plans de Jean-Bernard Carrier.
16h-18h, et si on partait ? Philippe Googler.
Ah, mais on va pas arrêter, on va garder l'antenne jusqu'à minuit, je crois. Parce que là, on est vraiment parti.
On va danser sur la table, bien sûr.
On est sur Europe 1, on est en plein centre de la perle des Caraïbes. Nous sommes à Cuba. Et nous sommes maintenant avec Jean-Bernard Carrier du guide Lonely Planet, qui va nous expliquer comment bien profiter de cet endroit unique au monde.
Je vous donne quand même quelques petites infos pratiques avant d'y aller. Alors, quand la crise sanitaire sera terminée, il y aura de nouveau des vols quotidiens, j'espère, pour La Havane.
On espère le plus vite possible.
C'était le cas avant la crise. Donc, Paris-La Havane, aucun problème. Il faut un visa touristique, mais c'est très facile pour l'obtenir. La seule difficulté qu'il y a sur place, c'est qu'il y a deux monnaies. Il y a le CUC. C'est un CUC égale 1 dollar ou 1 euro. C'est pour les touristes. Et il y a le peso pour les Cubains. Donc, il faut un petit peu jongler avec ça, mais on apprend assez vite. Et depuis peu, on m'a dit qu'il y avait des distributeurs de billets. Donc, c'est un petit peu en train de changer aussi positivement.
Ce qui est compliqué, c'est Internet là-bas. Hein. Ne croyez pas que vous allez pouvoir surfer sur Internet.
Il n'y en a pas. Hein.
Ouais.
Moi, si
on peut, mais c'est des espèces de cartes qu'il faut acheter.
Oui, il faut aller sur l'endroit.
Ouais, c'est compliqué. C'est très compliqué. Donc, c'est un bon moyen aussi de faire une détox numérique.
Exactement.
C'est vraiment radical à Cuba. Ouais. Voilà. Ouais. Pour circuler, c'est assez facile. Il y a toutes sortes de taxis, des taxis privés, des taxis collectifs. Il y a des bus interurbains. On peut même louer une voiture. C'est la solution la plus chère. Moi, je pense que le déplacement en taxi interurbain, c'est super bien. Et vous serez avec des Cubains dans le véhicule, c'est super pour faire connaissance.
Comment on fait pour profiter, jouir pleinement de la musique cubaine là-bas?
Eh ben voilà, alors vous touchez la corde sensible là, mon cher fille, parce que bon, bien sûr, on pense à la salsa, mais pas que. Il y a la rumba, le son, le cha-cha-cha, le dance-on et bien d'autres rythmes encore. J'en frémis parce que j'ai vécu des expériences extraordinaires de musique. Alors, il y a des visiteurs qui viennent à Cuba rien que pour apprendre à danser, figurez-vous. Ouais. Il y a beaucoup d'écoles de danse.
Mais il ne faut pas avoir honte alors, quand on commence parce qu'ils sont forts là-bas.
Je vais vous donner des astuces. C'est un super moyen pour s'immerger dans la culture locale, de découvrir cette âme cubaine qui est très festive et rencontrer les Cubains, évidemment. Alors, ça peut se faire dans l'une des écoles de danse de la Havane, bien sûr, il y en a beaucoup. Mais je conseille d'aller à Santiago de Cuba, c'est là que je suis allé, c'est dans l'est du pays. Santiago de Cuba, c'est réputé pour la culture musicale, c'est la ville de la fête et de la danse. Alors il y a beaucoup d'orchestres, il y a de la musique live dans les bars et même dans la rue. Et là j'ai rencontré un personnage en haut en couleur, il s'appelle Onel González. Il est plus très jeune ce monsieur, mais il a une classe incroyable. Il a un panama, une chemise, une cravate, il est très élégant. Et c'est un ténor de la salsa, un maître de danse. Il donne des leçons pour les débutants touristes, les visiteurs, comme pour les pros. Alors c'est pas vraiment des cours organisés, il fait ça dans les bars ou dans la rue. On le trouve facilement sur place et on s'arrange avec lui. Surtout dans la Calle Heredia, qui est la ville, la rue la plus festive. Nathalie, ça vous plairait de virevolter le temps d'une soirée au bras de Onel González?
Bah, si vous m'arrangez le coup sur Tinder, hein, pourquoi pas.
Il donne même des cours particuliers.
Internet, on vous
est dit là-bas. C'est pas grave, on va manager ça depuis la France, tout va bien.
Alors, à titre personnel, j'ai pas esquissé des pas de danse parce que je pense que je suis un piètre danseur, mais simplement de regarder les orchestres, les gens qui dansent, les gens qui apprennent à danser, c'est une expérience, c'est fascinant. Voilà.
Ouais. Mais ce monsieur, comment on fait? Il faut.
Mais on le trouve, vous demandez. Ouais. Vous demandez tout simplement où est Onel González, oui, tout le monde le connaît.
Il suffit de parler,
tout le monde le connaît, on vous mettra en rapport avec lui et vous prendrez votre leçon de salsa ou de cha-cha-cha ou de danson, de rumba ou de son.
Et, voilà. Et les relations avec les Cubains, faut pas rater ça.
Alors là, j'adore cet aspect, je n'ai jamais retrouvé ça ailleurs dans l'un des 120 pays que j'ai visités. Les Cubains sont super chaleureux, ils sont affectifs et j'adore ce côté-là dans les relations humaines, pas simplement que là-bas, mais même en France, sauf qu'en France, c'est un peu plus compliqué. Par exemple, vous allez dans un restaurant, vous êtes dans un magasin, vous êtes dans une banque, vous êtes à l'aéroport, on s'entend dire, je me suis entendu dire « mi amor ». Mi tesoro, mi amor, c'est mon amour. Mi tesoro, c'est mon trésor. Mi cielo, mon ciel. Mi ángel, mon ange. mi vida.
Ah, dis donc, vous avez un succès fou. Hein.
Mais alors voilà, alors faut pas prendre ça au premier degré, hein, Nathalie.
Non,
hein,
évidemment.
C'est une façon de communiquer, de créer un lien. C'est chaleureux et affectif.
Vous n'êtes pas juste qu'un homme de métal, comme on disait tout à l'heure. Vous n'êtes pas que Vulcain. Vous réchauffez au contact de Cuba.
Mais Cuba, c'est ça. Ça déclenche une connexion. Alors il suffit de parler quelques mots d'espagnol. Alors c'est vraiment.
On a l'impression d'être une reine de beauté. Moi, c'est l'impression que j'avais quand j'étais dans la rue, tous les hommes qui vous accoste,
c'est gentiment. J'avais pas l'impression d'être un roi de beauté, mais j'avais l'impression d'être en connexion avec les gens. Ouais. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire parce qu'il y a ce côté affectif absolument partout, dans tous les secteurs de la vie. Et ça donne vraiment une coloration à ce pays. Vous avez l'impression de flotter dans une famille géante. C'est génial.
Et c'est pour ça que Cuba est addictif.
Et complètement addictif.
Parce qu'on se sent bien. Ah, mais... pour les villes, alors on a parlé beaucoup de la Havane. Vous avez d'autres villes
Alors la Havane, j'ai pas tout à fait le même ressenti que vous.
Ah bon
Comment
c'est possible?
Alors, la balade en Chevrolet sous le Malecón, c'est vrai que c'est une expérience inoubliable. Je l'ai faite, j'ai adoré ce moment-là. Une petite astuce quand même pour la Havane, le plus beau point de vue, il n'est pas dans la vieille ville. Il faut aller de l'autre côté de la baie, dans un fort qui s'appelle le fort du Morro.
Ouais,
et là, on monte au phare. Et là, on a la plus belle vue sur la Havane. Donc, il ne faut surtout pas rester au centre historique. Il faut aller de l'autre côté. Là, il y a un panorama de dingue sur toute la baie et la vieille ville. Alors, la ville que j'aime beaucoup, je voudrais vraiment en parler de celle-là, c'est la ville de Trinidad. C'est un joyau architectural sur la côte sud. Et j'aime bien ce côté un petit peu endormi, figé dans le passé. Ça contraste avec la Havane qui, elle, est beaucoup plus bouillonnante, beaucoup plus tumultueuse. J'avais envie d'un peu de repos.
Endormi quand
même. Oui, alors c'est très endormi, effectivement. Je vous raconte quand même la nuit que j'ai passée. Le matin, en fait. Je vous raconte la matinée. Je vous raconte la matinée à Trinidad. J'étais dans une casa particular, c'est-à-dire l'équivalent d'une chambre d'hôte. Je me réveille, je suis dans cette chambre d'hôte. C'était une demeure coloniale, vieille de 200 ans, des grandes persiennes colorées. Dans le centre historique, je suis en train de prendre mon petit déjeuner et j'entends soudain le bruit des sabots des chevaux qui résonnent sur les pavés et l'appel des vieux vendeurs de pain sur leur bicyclette qui crient « El pan !» El pan, ça veut dire le pain. J'avais franchement du mal à imaginer que j'étais au 21e siècle. Et ça, c'est le type d'ambiance qu'on trouve dans le centre de Trinidad, en plus de tous ces monuments. C'est un musée à ciel ouvert. tous les bâtiments sont chargés d'histoire. On a l'impression de déambuler dans le Cuba colonial des années 1800. Je précise que cette ville est classée au patrimoine mondial de l'humanité depuis 1988.
Et si on aime la campagne ?
Ah bah là, il faut aller, notre ami agent de voyage l'a dit, il faut aller dans la région de Vignales. C'est la région des plantations de tabac. C'est là que pousse le meilleur tabac du monde. Il suffit de louer un vélo, vous allez croiser, c'est ce que j'ai fait, vous allez croiser les guajiros. Ce sont les paysans avec leur chapeau, machette à la ceinture, paysage burinais, et vous leur dites « Buenos dias, señor, ¿qué tal ?» Et vous avez un sourire de dingue. Ça, c'est mon Cuba que j'aime.
Ah, merci Jean-Bernard. Mais si après tout ça, vous n'avez pas envie d'aller à Cuba, là, on ne peut plus rien faire. On a tout donné. Merci de nous avoir suivis. Merci d'être venu avec nous aussi loin. À demain.